Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les forces gouvernementales syriennes bombardent des positions insurgées dans le sud-ouest de la Syrie. La province de Deraa est une zone stratégique sur le plan économique. Alors que les pays de Visegrad annoncent qu'ils boycotteront le mini-sommet européen de dimanche sur l'immigration, Emmanuel Macron dénonce la lèpre qui monte en Europe. Depuis la Bretagne, le chef de l'État appelle les Français à continuer de croire au projet européen. Les auteurs défendent leurs droits. Ils ont manifesté ce matin devant le ministère de la Culture pour l'amélioration de leur régime social. Et puis quand la musique contribue à lutter contre la pauvreté et la délinquance, en ce 21 juin, Benjamin Delisle nous emmène à Caracas et nous fait découvrir un programme d'éducation musicale pour les enfants défavorisés du Venezuela. Des milliers de civils fuient depuis lundi les violences dans la province de Deraa, au sud de la Syrie. De lourds bombardements aériens frappent l'est de la province, non loin du plateau du Golan syrien, en bonne partie occupé par Israël depuis 1967. Les troupes gouvernementales ciblent une coalition rebelle, dite Coalition du Sud, une faction de l'armée syrienne libre. Et un peu plus à l'ouest, dans la province de Kounaïtra, l'une des émanations de l'organisation État islamique. Le régime veut à tout prix reprendre ce territoire rural, contrôlé à 70% par ses ennemis. Et pour cela, il a mobilisé de très importants moyens. Précisément, pourquoi une telle offensive ? Mathieu Laurent a posé la question à Thomas Pierret, spécialiste de la Syrie au CNRS.
Il y a plusieurs raisons à ça. Je dirais la plus immédiate, c'est une volonté de rouvrir l'autoroute et le poste frontière qui mène à la Jordanie, sachant que c'est un axe commercial très important pour l'économie syrienne, et au-delà même d'ailleurs aussi pour l'économie libanaise, puisque le transport routier qui part du Liban et qui va vers la Jordanie, vers les pays du Golfe, transite par la Syrie. Donc c'est une source de revenus très importante pour le régime syrien. Il y a aussi une raison stratégique qui est tout aussi évidente, c'est que cette région est relativement proche de Damas. Elle a été pendant plusieurs années une menace stratégique directe pour le régime syrien. Alors c'est moins le cas aujourd'hui, mais le régime cherche bien sûr à faire disparaître cette menace stratégique de manière définitive.
Il y aurait des négociations au sujet de cette province de Deraa et de Kounaïtra. Quels sont les tenants et les aboutissants de ces négociations ?
Il y en a plusieurs. Disons que les différentes parties impliquées, et je parle surtout ici des États régionaux, ont tous des intérêts différents. On a la Jordanie, qui, je dirais, depuis 2015, n'est plus vraiment dans une relation conflictuelle avec le régime syrien, qui veut à tout prix éviter un nouvel afflux de réfugiés, qui a aussi un intérêt économique dans la réouverture du poste frontière. Sachant cela, la Jordanie favorise plutôt une solution négociée. Ça ne la dérange pas que le régime reprenne le contrôle de la région, mais elle ne souhaite pas que cela s'opère via des bombardements massifs qui vont encore déplacer des dizaines de milliers de personnes et peut-être vers son territoire. On a un peu plus loin à l'ouest Israël qui souhaite absolument éviter que le retour de l'armée syrienne dans le sud s'accompagne d'un déploiement de milices pro-iraniennes, ce qui paraît difficilement évitable. Et on entend aujourd'hui dans le camp du régime que le Hezbollah participerait à l'opération. Et je dirais que les États-Unis se positionnent essentiellement par rapport aux intérêts de leurs deux alliés, deux alliés que je viens citer, donc la Jordanie et Israël, et tentent à soutenir ces revendications.
Thomas Pierret, spécialiste de la Syrie. En Libye, les forces armées du maréchal Haftar ont repris aujourd'hui deux terminaux pétroliers dont s'étaient emparés des groupes dirigés par Ibrahim Jadran la semaine dernière. L'armée nationale libyenne compte reconquérir le croissant pétrolier, poumon de l'économie situé dans le nord-est de la Libye. Favorable à une ligne dure sur l'immigration, les pays du groupe de Visegrad annoncent qu'ils ne participeront pas au mini-sommet organisé par la Commission européenne ce dimanche. Sommet qui portera sur la politique migratoire. Les premiers ministres de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Pologne, réunis aujourd'hui à Budapest, contestent la légitimité de ce mini-sommet. Pierre Benazet, vous qui suivez l'actualité européenne depuis Bruxelles, qu'est-ce qui a poussé le groupe de Visegrad à prendre une telle décision ?
Disons que pour les pays d'Europe centrale, le sentiment est très net. Depuis en particulier l'arrivée en masse des migrants au printemps 2015, le sentiment de ne pas être sur la même longueur d'onde que les pays d'Europe occidentale. On se souvient que les pays du groupe de Visegrad avaient pour la plupart rejeté le système de répartition des migrants par quota. Deux d'entre eux, dont la Pologne, avaient même attaqué devant la Cour de justice de l'UE. Pour ces quatre pays, le problème du jour, c'est que cette idée de répartition des migrants par quota est de nouveau sur la table. Et même si ce serait uniquement en situation de crise et au cas par cas, du coup, coup, les pays de Visegrad ont beau jeu de saisir l'opportunité que leur offre la Commission européenne de snobber une réunion en dénonçant à nouveau des tentatives de directoire d'un petit groupe de pays supposément emmené par la France et l'Allemagne. Et les pays de Visegrad ont d'autant plus de raisons de s'enhardir qu'ils ont le soutien d'un autre pays d'Europe centrale, l'Autriche, dont le chancelier Sebastian Kurz participait aujourd'hui à leur réunion de Budapest et qui a promis de défendre leur point de vue dimanche. De la même façon, et ce n'est pas la seule ombre qui plane sur ce sommet informel de dimanche, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, avait menacé lui aussi de ne pas venir. Il a fallu qu'Angela Merkel l'appelle pour lui dire que l'idée de repartir, de renvoyer automatiquement les pays, les migrants dans leur pays d'entrée dans l'Union européenne de manière automatique serait enlevée de la déclaration de dimanche. Il viendra donc finalement, mais on sent que cette réunion va être difficile et qu'il va être difficile au 28 aussi de trouver une solution à 28 lors du prochain sommet européen.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Et après SOS Méditerranée et son bateau humanitaire l'Aquarius, c'est à l'ONG allemande Mission Lifeline que Matteo Salvini s'en prend. Le ministre italien de l'Intérieur accuse un navire de l'ONG d'avoir sciemment ignoré les consignes des autorités italiennes et libyennes en recueillant aujourd'hui 226 migrants africains au large de la Libye. Et il demande au navire, qui bat pavillon néerlandais, d'aller débarquer ces migrants aux Pays-Bas. Dans ce contexte de tension autour de l'accueil des migrants, Emmanuel Macron a tenu des propos forts aujourd'hui. Le chef de l'État, en déplacement en Bretagne, a défendu sa politique migratoire, mais il est allé plus loin en dénonçant la renaissance du nationalisme et en appelant à croire dans l'Europe. Emmanuel Macron.
Beaucoup la détestent, mais ils la détestent depuis longtemps. Mais vous les voyez monter comme une lèpre, un peu partout en Europe, dans des pays où nous pensions que c'était impossible de la voir réapparaître, et des amis voisins. Ils disent le pire, et nous nous y habituons. Ils font les pires provocations, et personne ne se scandalise de cela. On se retourne sur nous-mêmes. Vous, vous n'êtes pas assez ceci ou cela. On vient accuser les Européens de ne l'être pas assez, ou pas tout à fait comme on voudrait. Et on oublie de dénoncer ceux qui ne le sont plus du tout, ceux qui la détestent et font monter leurs projets. On s'habitue à toutes les extrêmes, dans les pays qui depuis des années sont pourtant pro-européens comme nous. Et sur ce sujet, nos élites économiques, journalistiques, politiques ont une responsabilité immense. Immense.
Extrait du discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Quimper. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Aurélie.
Cette intervention du chef de l'État frappe par son ton grave, par sa solennité.
Oui, le ton et les mots sont graves, un peu comme quand avant-hier l'Élysée présentait la rencontre franco-allemande comme l'heure de vérité pour l'Europe. Le moment que le continent traverse ne prête clairement pas à sourire. Le président a parlé de temps troublé, mais Emmanuel Macron a aussi tout intérêt à en ajouter un peu en termes de dramatisation, de façon à emmener derrière lui une majorité de l'opinion publique française. On le rappelle, on est à 11 mois des élections européennes. Il s'exprimait devant un parterre de Bretons, essentiellement des élus, mais à travers eux les habitants de la région. « J'ai besoin, disait-il, de ces terres qui croient dans l'Europe. N'oubliez jamais d'être européens, des Européens bretons. » comme vous savez l'être. Il a vanté finalement la modération bretonne, s'attaquant donc à ces radicalités, ces extrêmes droites qui montent partout en Europe, ces partis anti-immigration au pouvoir ou qui participent au pouvoir, Italie, Autriche, Hongrie, Grande-Bretagne, Pologne, Slovénie et dans une moindre mesure Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande. De quoi se sentir un tout petit peu seul quand on est un dirigeant pro-européen comme lui. D'où sa colère contre les élites, on vient de l'entendre, qui selon lui, lui ferait plus de reproches qu'elle n'en ferait formule à l'égard des extrêmes. Emmanuel Macron a bon dos de critiquer ses élites comme le font les forces populistes qu'il critique et qu'il qualifie de lèpre, mais c'est assez contradictoire que de taper sur ses élites. C'est ici la logique du en même temps qui est à l'œuvre dans son discours, une rhétorique plutôt risquée que de recourir aux mêmes armes que l'adversaire qu'on prétend combattre.
Ludovic Piétenu, aujourd'hui va être un moment historique autant pour la Grèce que pour la zone euro. Déclaration du commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici. La réunion qui a lieu ce soir à Luxembourg doit permettre de fixer les modalités de sortie de la Grèce des programmes d'aide dont elle bénéficie depuis 8 ans. Des discussions cruciales pour qu'Athènes puisse, comme prévu, quitter la tutelle de ses créanciers le 20 août prochain et se financer seule sur les marchés après plusieurs années de profonde récession. C'est la fin d'Autolib à Paris. Paris et ses communes voisines viennent d'acter l'arrêt du service de location de voitures électriques. En place depuis 2011, le service est gravement déficitaire, ce qui a donné lieu à une véritable bataille entre Blue Solutions, entreprise du groupe Bolloré, et les municipalités. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
Personne ne voulait payer pour combler ce déficit, mais avec l'arrêt d'Autolib, il y aura quand même une facture à payer.
Oui, nous voulions protéger les intérêts financiers des collectivités, explique-t-on à la mairie de Paris à l'issue de ce vote. Concrètement, rompre de manière anticipée la délégation de services publics donnée à Autolib pour éviter aux collectivités de payer les 46 millions d'euros annuels récemment réclamés par Bolloré. Seulement, la mairie de Paris, principal payeur, le reconnaît, il faudra dédommager l'industriel pour les investissements qui n'ont pas encore été amortis et débourser de l'argent, notamment pour acheter les bornes de recharge dont il était prévu qu'elles deviennent à terme propriété des municipalités. Tout cela pour une somme qu'elle estime à quelques millions, soit bien moins que les 293 millions de dettes du service à éponger, de quoi justifier son vote d'aujourd'hui. Seulement, pour cette rupture de contrat, le groupe Bolloré, lui, met sur la table une note supérieure à 300 millions d'euros. Aujourd'hui, dans un entretien au journal Le Monde, Marie Bolloré, la directrice du pôle mobilité électrique du groupe, fait une longue addition. 150 millions d'euros, montant du déficit actuel, 60 millions de manque à gagner dû à la rupture de contrat. Elle y ajoute l'amortissement qui ne serait pas réalisé, le dédommagement des filiales. Bref, une facture qui, selon le groupe Bolloré, ne serait pas de quelques dizaines, mais bien de 300 millions d'euros. C'est donc sur cela l'évaluation des sommes à payer que la bataille s'annonce féroce. Gilles Alix, PDG d'Autolib, a déjà annoncé qu'il contesterait la décision d'aujourd'hui. N'écoutez pas les balivernes du syndicat. Sachez que nous irons au tribunal administratif et que nous obtiendrons beaucoup d'argent, a-t-il déclaré à l'issue de la réunion d'aujourd'hui. Bataille de communication et d'avocats sont loin d'être terminées.
Catherine Pétillon, et un nouvel épisode dans le bras de fer opposant la SNCF aux cheminots depuis 2 mois. Ce matin, le tribunal de grande instance de Bobigny a donné raison au syndicat au sujet des jours de repos non payés aux salariés grévistes. La justice condamne la SNCF pour entrave au droit de grève. La direction a décidé de faire appel de la décision, mais concrètement, Mayouen Bordron, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les salariés concernés ?
Aujourd'hui, rien n'oblige la SNCF à payer aux cheminots les jours de repos qui ont été retenus sur leur salaire pendant la grève. Le groupe est en fait condamné pour non-respect de son règlement dans le but de faire obstacle au droit de grève des salariés. La SNCF doit donc payer 10 000 euros de dommages et intérêts à chaque organisation syndicale qui poursuivait le groupe, soit la CFDT, l'UNSA et la CGT. Le fait que la SNCF fasse appel n'y change rien. Le tribunal a décidé de l'exécution provisoire de sa décision. C'est assez rare. En général, l'appel d'un jugement est suspensif, c'est-à-dire que tant que la cour d'appel n'a pas rendu son arrêt, la personne condamnée, en l'occurrence ici la SNCF, n'a pas à payer, comme le dit le jugement en première instance. Ce n'est donc pas le cas dans cette affaire. La SNCF doit s'acquitter dès à présent des dommages et intérêts, mais ce jugement a également des conséquences pour les salariés grévistes, comme l'explique maître Daniel Saada, l'avocat de la CFDT.
Les cheminots pris individuellement vont pouvoir, avec cette décision, dire à la SNCF, vous avez été condamné parce que vous avez violé votre propre règlement, et c'est parce que vous avez violé votre propre règlement que vous avez retenu de manière illicite des salaires, et donc je vous demande la restitution des salaires que vous avez retenus.
La SNCF a annoncé dans un communiqué que la situation des agents concernés allait être régularisée. Elle a même en fait intérêt à le faire spontanément, car dans le cas contraire, les salariés pourraient alors saisir le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la restitution des jours de repos impayés.
Demain, le trafic sera moins perturbé que lors des journées de mobilisation précédentes. La direction prévoit 9 TGV sur 10, 3 TER sur 5 et 2 Transiliens sur 3. 200 auteurs en colère, soutenus par leurs organisations, ont manifesté à la demi-journée devant le ministère de la Culture pour demander la protection de leur statut. De plus en plus précaires, les artistes auteurs, ils sont 270 000 en France, s'inquiètent des réformes de la sécurité sociale et des retraites prévues par le gouvernement. Ils craignent qu'elles ne grèvent encore leur budget déjà mince, malgré leur succès de librairie. Bonsoir Cécile de Kervas-Doué.
Bonsoir.
Vous avez assisté à une mobilisation sans précédent.
Oui, bien sûr, 200 personnes, c'est peu par rapport aux 22 000 artistes auteurs qui vivent en région parisienne aujourd'hui. Mais c'est sur les réseaux sociaux et surtout dans les médias que la colère monte. Joanne Farr ou Guillaume Musso, par exemple, comme 30 000 auteurs, viennent de signer une pétition et une tribune pour s'alarmer de la précarité des auteurs, dont 41% se payent à peine un SMIC, rappellent Marc-Antoine Baudin et Bruno Duhamel, deux auteurs de bande dessinée qui discutent dans la manif.
Effectivement, les auteurs, pour qu'ils en viennent à venir dans la rue, c'est qu'il y a un problème. Pour la bande dessinée, par exemple, on doit être arrivé à peu près à 50% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Si à ça, on assène des réformes qui ne prennent pas du tout en compte le problème de régularité de revenus relatif à l'ensemble de notre profession, évidemment que ça pose un problème.
Est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent qu'effectivement, il ne faut plus qu'il y ait de régimes spéciaux?
Alors, pour dans ces cas-là, on peut leur répondre qu'il ne faut pas qu'il y ait de régimes spéciaux pour les éditeurs, qui sont les premiers employeurs des auteurs, étant donné que les éditeurs sont quand même le seul corps de métier en France qui ne paye que 1% de charges sociales. À l'heure actuelle, pour faire un livre, ça coûte pas trop cher à l'éditeur. Les pourcentages sont passés de 12% à 6%, parfois 2% dans la jeunesse pour les auteurs. Ouais. Donc on est à la limite de l'esclavage pour certains contrats.
Ça fait 5 ans qu'on nous promet une concertation.
La réunion au ministère de ce matin n'a fait que promettre une énième concertation attendue depuis des mois par les auteurs qui veulent pouvoir expliquer la spécificité de leur statut aux décideurs. Par exemple, le fait qu'ils ne sont payés qu'une seule fois par an, que certains n'ont pas de retraite. Depuis 5 ans, ces auteurs attendent des réponses pour réformer leur statut. Mais aujourd'hui encore, le gouvernement a botté en touche, estime Samantha Bailly, présidente de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse.
Nous, à l'heure actuelle, on subit la baisse drastique de notre rémunération, qui est due conjoncturellement à beaucoup de choses, la surproduction notamment dans le domaine du livre. Une réforme qui était très attendue parce que du coup on a quand même besoin d'avoir un régime social qui tient la route, qui soit solide. Et là en fait, c'est des détails très très techniques, mais par exemple le prélèvement à la source des impôts, les auteurs de livres ils ne sont rémunérés qu'une seule fois par an au moment de la reddition de comptes. Beaucoup d'auteurs là n'ont même pas la trésorerie en fait pour faire face à ça. Donc c'est beaucoup de réformes en fait qui ont été décidées pour s'appliquer à nous comme n'importe quels actifs. Le problème c'est que, ou alors dans ce cas-là, il faudrait qu'on ait des bonnes de rémunération qui soient plus proches, ce qui n'est pas le cas.
Et puis il y a la question de la CSG pour laquelle, pour le moment, les auteurs n'ont pas réussi à obtenir une compensation sûre et systématique. Ils craignent surtout la disparition de leur caisse de sécurité sociale spécifique et encore la réforme des retraites, continue Marie Cellier, la présidente de la Société des gens de lettres.
Ces auteurs, on va leur rajouter une cotisation pour leur bien sûr, pour qu'ils aient une retraite. Mais pour le moment, ils n'arrivent pas à vivre, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Donc il faut imaginer un statut particulier pour que les auteurs puissent jouir de leurs droits sociaux, aidés par la collectivité. Je ne vois pas très bien comment on va s'en sortir autrement.
Et sur toutes ces questions très techniques, les auteurs n'ont pas réussi à obtenir une réponse aujourd'hui, sauf que la réforme sera bien mise en place le 1er janvier 2019, sans aucune autre précision.
Cécile de Kervas-Doué. Et en cette journée de fête de la musique, nous rendons hommage à l'initiative de José Antonio Abreu. Ce chef d'orchestre vénézuélien, décédé au printemps, avait fait un pari, il y a 43 ans de ça, celui de lutter contre la pauvreté et la délinquance par la musique. Il avait créé El Sistema, un programme d'éducation musicale pour les enfants défavorisés du Venezuela. Et aujourd'hui, cette institution financée par l'État est l'une des fiertés de ce pays en crise. El Sistema revendique plus d'un million d'étudiants. Son orchestre principal, le Bolivar, est invité dans les plus grandes salles du monde. Malgré la crise économique, donc, l'institution continue d'offrir un message d'espoir aux jeunes Vénézuéliens. Le reportage de Benjamin Delisle à Caracas.
C'est en plein centre de Caracas que se concentre la fine fleur des musiciens issus d'El Sistema. Dans le Centre National d'Action Sociale pour la Musique, les dirigeants de ce programme d'éducation populaire invitent des délégations du monde entier pour montrer l'efficacité de leur méthode. Aujourd'hui, l'invité est l'ambassadeur de France au Venezuela, Romain Nadal.
Le maestro Abreu, il a imaginé un réseau d'associations d'enseignement sur l'ensemble du pays du Venezuela. Et c'est une réussite extraordinaire parce que ça a fait du Venezuela une véritable nation de musiciens.
Le directeur d'El Sistema, Eduardo Mendes, revendique aujourd'hui 1 million d'étudiants au Venezuela et environ 440 écoles réparties partout dans le pays.
Le Sistema est un élément de socialisation. La musique a toujours permis le vivre ensemble. Être membre d'un orchestre oblige à la concertation. Et à partir de là, l'origine sociale, religieuse, économique, ethnique n'a pas d'importance. Tous les musiciens sont égaux.
Al momento de sentarse en orquesta, son todos iguales.
Avant d'être sélectionnés dans les meilleurs orchestres, les jeunes Vénézuéliens sont formés dans des écoles qu'on appelle des nucleos, où ils rentrent dès leur plus jeune âge. Wolfgang Glinia dirige le nucléo de la Rinconada, au cœur d'un bidonville du sud de Caracas.
Tengo personas a mi cargo.
Je suis responsable des personnes qui viennent ici et certaines d'entre elles sont d'origine très modeste. Aujourd'hui, avec la crise, ils te disent parfois qu'ils n'ont même plus de quoi se payer le trajet pour venir. C'est un problème qui fait partie de notre quotidien.
Les professeurs, comme Iris Morales, sont conscients du rôle social qui leur incombe.
Le travail social est énorme.
Le travail social est énorme, en particulier car nous manquons de tout et que nous vivons un moment critique au Venezuela. Ceci dit, quand les enfants se réunissent, je leur dis qu'ils doivent oublier qu'ils sont des enfants, je leur dis qu'ils sont des chanteurs.
Malgré cet encadrement, beaucoup de jeunes rêvent de réussir pour un jour quitter le pays. C'est le cas de cette jeune violoniste, Mariana Velasquez. Du haut de ses 16 ans, elle est déjà membre de l'orchestre du Nucleo.
J'aimerais jouer dans un orchestre à l'étranger, vivre d'autres expériences en France, en Espagne, en Europe. Et peut-être un jour revenir ici.
Aucun n'invoquera de raisons politiques ni les conditions économiques, mais pour nombre d'entre eux, ces journées passées en musique sont une véritable échappatoire.
Benjamin Delisle à Caracas pour France Culture. Du soleil demain, il fera 9 à 13 degrés le matin sur la moitié nord, 14 à 22 au sud. L'après-midi, 17 à 22 au nord de la Seine, 23 à 31 plus au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.